France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. Un peu de théorie ce soir, avant d'être tout ouïe dehors, avec si vous le pouvez un casque, pour vraiment en profiter. Un peu de théorie de Jean-Luc Guillonnet, la théorie du bruit de fond. Le bruit de fond est une condition de l'écoute. Il en est le milieu sonore, c'est-à-dire le milieu perçu. Et comme condition, le bruit de fond est d'abord un flux sonore passant sous, entre, dans, parmi, ce que l'oreille peut distinguer, ce qu'elle cible. Entendre, c'est recevoir ce flux et écouter. C'est être aux aguets dans une évolution que le bruit de fond conditionne de toutes parts. Ce soir, nous allons avec et sans bruit de fond engager une promenade auriculaire. Et pour Gilles Malatré, il y a des points d'ouïe, voire des belvédères sonores. Un promeneur écoutant par Stéphane Marin et Lionel Quentin.
Vous entrez dans les ateliers de Louis. Vous entrez dans la maison de la radio. Là, ici, vous entrez. Peu à peu, pas à pas, au cœur de l'écoute, des écoutes, vous descendez. Vous passez le seuil.
Silence radio.
Entre le bruit de fond et le fond du bruit. Là, vous entrez. À l'intérieur, au centre du vestibule. Tu y rentres comme le limaçon dans la cochlée. Tu y écoutes. Ici. Maintenant, de l'intérieur de l'écoute. Dans son lieu, son espace, son vide plein de sons. Dans l'oreille. Comme si tu voulais toucher le monde du bout de l'ouïe. Tu n'es pas seul, tu sais?
Sans doute pas.
Non, on t'accompagne. Qui? Lui? Moi? Nous? Viens. Approche. Là. Ici. Là. un peu plus près, un peu plus profond, au-delà, en deçà, en dessous
de nos respirations,
sur, écoute.
Le fond du bruit est-il silence ? Le silence fait-il du bruit ? Le bruit de fond. Le bruit de fond n'est pas silencieux, par définition. Sinon, on n'a jamais parlé de silence de fond d'ailleurs. On parle toujours que du bruit de fond. Pour imaginer la notion de silence de fond. À creuser. Instant calme, mais tout bruissonnant. L'ambiance studieuse des studios. Présence de ventilation.
Il s'agit de marcher, arpenter, errer, passer d'ici à là, lentement, rapidement. Choisir un lieu très sonore, aux nombreuses sources le plus hétérogènes que possible. Écouter en ne s'attachant qu'à un seul son ou genre de son. Pratiquer une marche sonore en se déplaçant le plus vite qu'on le puisse, en réalisant ainsi, par la seule écoute, un mixage sonore performatif en direct.
Changement d'acoustique surprenant. Un lieu très réverbéré, un lieu très très mat.
Cassure. Dedans, dehors. Mouvement, immobilité.
Voilà, dans la terminologie désarçonnante, c'est ce que j'appelle un banc d'écoute. Tout simplement parce que je suis assis sur un banc. Position stratégique et que ce banc me sert tout simplement de point d'ouïe. Voilà, on rajoute une terminologie désarçonnante. Banc d'écoute, on est assis, point d'ouïe. Nous écoutons. C'est une ambiance assez belle, assez équilibrée. La circulation n'est pas trop intrusive. Les enfants amènent vraiment, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un square avec des jeux pour enfants. Un espace un peu clos. Entouré de bâtiments, donc des réverbérations qui donnent un petit peu de profondeur, un petit peu de grain au son. Et une belle spatialisation. Jusque derrière moi, une élève flûtiste qui traverse les vitres. Faisant ses gammes. Et en jouant sa coura, me semble-t-il. Ça, c'est une position que j'aime beaucoup. On s'assoit au centre des sons exactement. On les laisse venir. On se laisse immerger. De la voix, de la vie. De l'énergie. Ça, c'est la qualité de beaucoup de squares. On est un petit peu dans des îlots, un petit peu dans des oasis. On sort d'un grand boulevard, on fait quelques centaines de mètres. On sait qu'on est encore en ville. Mais on a une certaine qualité d'écoute, voire une qualité d'écoute certaine. C'est ce que Maroche FR appelait presque un paysage hi-fi. Avec suffisamment de son pour être riche, mais où on écoute toutes les sources, on les situe, on n'est pas trop agressé. Un petit peu de profondeur de champ. Voilà, la séquence enfant, ça me nuise petit à petit. C'était l'heure du défoulement après l'école. Et là, on va progressivement rentrer. un apaisement progressif. Comme quoi même la ville peut réserver de beaux espaces d'écoute. Réserve très souvent de beaux espaces d'écoute. Au moins aussi beaux que ceux des grandes plaines céréalières. Même beaucoup plus.
Le paysage sonore n'est pas un sujet ni un objet unique, inscriptible en une seule définition, et encore moins réductible à une seule écoute. Il se construit à long terme par de multiples actions et réflexions, souvent lors de promenades auriculaires. Il se matérialise et prend forme à force d'arpenter, en prenant à témoin l'écoute comme acteur principal. Il se fabrique au gré des cheminements, des déambulations, des itinéraires, des errances. Il convient alors aux promeneurs écoutants de débusquer la moindre trace sonore, y compris la plus anodine, la plus triviale, celle qui pourrait prendre forme d'indice, de trace, participant à sa construction.
Un magasin, des réverbérations, des fenêtres d'écoute qui restent ouvertes sur la rue. Une sorte de non-lieu à la Debord. Ça, c'est des ambiances qu'on apprécie beaucoup dans les promenades sonores, de décaler complètement l'oreille d'une gilet par un loulouti.
Zoom. Fluidité. Entre deux. souffle, flux, continuum.
Paysage avec une sorte de rémanence, quelque chose qui secoue et quelque chose qui revient à son état presque normal.
Marcher tout en rêvassant et en écoutant, sans faire l'effort de lier une situation à une autre, en captant ce qui nous vient aux oreilles, instinctivement, sensoriellement, comme une façon quasi hypnotique de s'immerger dans un bain sonore que l'on ne contrôle pas. Pas plus que l'on ne contrôle la marche qui nous promène d'une façon similaire au corps des sons. Oreilles vagabondes qui jouent à des associations surprenantes, parfois décalées, entre l'image et son empreinte sonore.
On est dans une situation acousmatique, on ne voit pas, on est en contrebas, on ne voit pas la source, mais de fait elle devient plus musique. Voilà, je viens de chausser un casque anti-bruit et je m'entends bizarrement et surtout, je crois que 90% des sons de la circulation ont disparu. Alors, l'effet c'est que je vois beaucoup de choses qui bougent autour de moi, tout s'agite autour de vous. Et que je suis obligé de tendre l'oreille. Alors les émergences sonores, c'est les moteurs de roue qui, elles, émergent franchement. Reste, c'est l'effet d'avoir perdu 80% de l'audition, d'être un peu sourd ou très sourd. J'ai quand même un ronflement grave qui passe encore. Quand même une sorte de drone que j'entends encore et qui arrive à persister malgré tout, alors que les voitures elles sont quasiment des courses.
traverse quand même, malgré tout. Toujours les deux roues, ça, même sans les voir, je les entends, je les perçois. Mon cylindre. C'est vraiment un monocylindre. Là, j'entends quelques gouttes de pluie sur mon casque. Ah, celle-là, je les entends bien par contre sur le casque.
Ces gouttes de pluie sur le casque viennent faire un pointillisme très très proche, alors que le lointain est complètement gommé, mais là, j'ai les gouttes dans la tête, là. C'est une situation d'écoute un peu, hein.
J'enlève doucement le casque et là je laisse respirer, je retrouve du presque 360 degrés tout d'un coup. Et surtout plein de fréquences que j'avais presque oubliées. Je crois que les gens qui ont une bonne audition, s'ils mettent ce genre de casque, ils peuvent s'apercevoir de la chance de jouir d'une paire d'oreilles en bon état de marche. Même sans casque, les deux roues restent quand même une émergence sonore du carrefour.
Où que tu sois, ferme les yeux. Autant que possible, reste immobile. Puis, une par une, écoute dans toutes les directions. Devant toi, sur ta droite, derrière toi, sur ta gauche, en dessous, au-dessus, et pour finir, à nouveau devant toi.
Hier, mardi 18 août, aux alentours de 21h, assis sur les marches du théâtre Nouvelle Génération, rue de Bourgogne à Lyon, une légère pluie vient tout juste de cesser. L'air est agréable, presque frais. La nuit est maintenant tombée. Devant moi, une intersection avec des feux tricolores. Des voitures de tout genre passent, s'arrêtent, passent, s'arrêtent, passent, s'arrêtent. Voitures, camions, motos, à chacun sa façon de vrombir. Un vélo traverse la Seine en silence. Une voiture anime la rue des puissants cliquetis de la grosse remorque métallique qu'elle tracte. On l'entend venir bien avant de la voir et partir bien après l'avoir perdu de vue. Hors champ. Un bus en colère klaxonne rageusement après une voiture qui lui a joliment grillé la priorité. Un train de marchandises sur la droite, hors champ, n'en finit pas de secouer le paysage de ses rythmes saccadés, réverbérés par les constructions adjacentes et les deux ponts de pierre qui l'enjambent. Un bar ouvert. Le patron rentre tables et chaises en causant fort avec des clients à l'intérieur. Des promeneurs déambulent en parlant de vive voix d'un spectacle apparemment très apprécié. Une moto, monocylindre, Harley, démarre du feu avec un tintamarre à la fois beau et à la limite de ce que le paysage urbain et ses habitants puissent supporter. Un père de famille, portant sur ses épaules une jeune fille, lui fredonne une chansonnette que l'enfant a l'air de fort apprécier. Deux personnes regardent à leur fenêtre en silence. Un autre train, plus discret et plus court celui-ci. Le bar ferme ses portes dans un bref mais énergique roulis métallique. La supérette ferme également ses portes sans particulièrement se signaler à l'oreille. Seule l'extinction de ses lumières atteste de sa fermeture. Le quartier devient petit à petit, presque en catimini, plus sombre. Les voitures se raréfient progressivement, jusqu'à laisser de temps à autre de vraies plages de silence. Durant quelques secondes en tout cas. La fenêtre d'où observait le couple s'est refermée, sans bruit. Un autre train se fait entendre, toujours invisible, de voyageurs celui-ci. L'heure avançant, les événements deviennent moins denses. Le quartier s'apaise. Je décide alors de rentrer.
Collection d'acoustique de la maison de la radio. Chaque parcelle de couloir a sa signature acoustique. Non,
Bah ouais, j'ai rendez-vous avec un médecin, mais on fera de ce côté. Fais un peu là quand même. Hein.
De quoi?
Henri, dis-moi que tu es au 152.
Non, mais je remplace Kevin, on a quoi?
Et tu viens au 152?
Ouais.
Ah, super. Qu'est-ce qu'on fait?
Une émission de Didier Varro, on va faire sur Astrid Blatin.
D'accord.
Non, je sais pas, les gens.
Te souviens-tu du premier son que tu as entendu ce matin en te réveillant? Quel est le dernier son que tu as entendu hier soir en t'endormant? Quel est le bruit le plus inquiétant que tu as entendu aujourd'hui? Quel est le son le plus émouvant que tu as écouté aujourd'hui?
Le silence. Mais en fait, moi, j'écoute jamais du silence. J'écoute les bruits qui se cachent dans le silence, peut-être, ou un semblant de silence. Il y a des silences qui peuvent être extrêmement bruyants, je pense. Et puis des ondes bruyantes qui pourraient presque paraître silencieuses. Mais je n'ai jamais rencontré le silence encore. Vient d'assister à ce qu'on appelle l'effet frigo. Ça, c'est Max Knowles jouait beaucoup là-dessus sur les installations. Le son disparaît et on l'écoute d'autant mieux.
Dans l'idéal, j'aimerais être tailleur de pierre ou sculpteur. Ainsi, je pourrais œuvrer non seulement sans rajouter quoi que ce soit, mais au contraire travailler à enlever de la matière, à construire par extraction, par soustraction.
un peu plus près. Là. Encore. Plus près. Là. Tout contre. Ausculte. Ausculte. Le son de la fine pointe de ton attention.
Il a tout écrasé pendant quelques secondes. Et l'ambiance nocturne va reprendre doucement son cours. Ce qu'on appelle l'effet résilience. Il faut que l'oreille se réhabitue au petit son après le passage du RER. Petits sons ont repris leur place tranquillement. Plus on est sur un espace très dégagé. Ça bruissonne. C'est marrant, de nuit, on a l'impression que les sons ont plus de traînes. Ils sont plus comme des grandes traces que parce qu'on les entend jusqu'au bout en fait. Alors que dans la journée, ils sont toujours... Ils se coupent tous la parole, ici on les entend jusqu'au bout. Tout est assoupi là. Plus d'avions, plus de trains, plus de voix, plus de chiens. Notre oreille fasse l'effort d'aller loin.
Jusqu'où ?
Un promeneur écoutant par Stéphane Marin. Texte de Gilles Malatret et Stéphane Marin. Le promeneur écoutant, Gilles Malatret. Elle, Aurélie Charron. Le lecteur, Gilles Bouly. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Benjamin Thuot, Marie-Laure Ciboulet, Lionel Quentin. Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko.
Demain, dans la CR, à 23h, la Fungi Miracolette, par Olivier Mélano et Christine Digère. Promenons-nous maintenant dans les nuits de France Culture, proposées par Philippe Garbi.